Bonjour, Coco Cash.
Bonjour et bienvenue sur le podcast Enfanter et Devenir, un podcast dédié au récit de naissance à soi et au monde. Naître à soi et naître au monde, des temps de passage forts qui peuvent revêtir des réalités bien différentes. Je suis ravie de vous accueillir dans cet espace de parole qui se veut libre et authentique. Je m'appelle Laetitia Boivin. Je suis une femme multipassionnée parmi tant d'autres. Doula, créatrice de Maman de la Lune et éducatrice Montessori et Nature dans l'association Brin de Curieux. Je suis également la maman de trois merveilleux enfants qui a vécu des enfantements qui m'ont transformée. À travers ce podcast, je souhaite accueillir les femmes et les hommes qui le désirent à venir compter leurs enfantements. Libérer la parole, faire part de nos joies, de nos difficultés aussi. Lever les tabous. Je suis profondément convaincue qu'à travers la naissance se jouent des changements incroyables pour l'humanité. Dans cet épisode 14, j'accueille Chloé, maman de deux enfants et doula. Elle a choisi un titre fort à la hauteur de l'expérience qu'elle a vécue. C'est avec beaucoup d'authenticité qu'elle nous dévoile son parcours qui a débuté douloureusement par une fausse couche. Puis, s'ensuit une belle surprise, non sans stress, avec le passage par la case amniocentèse. Bref, je vous laisse découvrir son histoire. Belle écoute à vous. Et Chloé, je te souhaite la bienvenue. Je suis ravie que tu aies répondu à l'appel pour venir témoigner. Et puis j'ai bien hâte d'entendre ton histoire.
Merci beaucoup, c'est très gentil. Je suis très honorée aussi d'être là avec toi. Ma petite histoire, moi je suis maman de deux enfants. Donc un petit garçon qui va avoir 5 ans au mois d'octobre et une petite fille qui va avoir 2 ans dans un mois. Voilà, donc j'ai toujours aimé les enfants. Je suis la grande sœur, en fait, on est 4 enfants et je suis la grande sœur. J'ai pas mal d'écart avec mes frères et sœurs puisque je suis née d'une première union de ma maman et ensuite elle s'est remariée et elle a eu 3 autres enfants, mais j'étais déjà plus grande. Ce qui fait que j'ai pas mal pouponné mes frères et sœurs déjà. Et ensuite en grandissant, je savais que je voulais devenir maman, c'était vraiment important pour moi. Voilà, j'avais un peu quand même les, pas les stéréotypes, mais presque de la société en me disant qu'il faut d'abord que je trouve l'homme de ma vie, que je me marie, que j'ai un travail, que j'achète une maison et qu'ensuite je pourrais prétendre à construire une famille. Donc c'est un peu ce que j'ai fait, on a acheté la maison, on s'est mariés, j'avais un boulot dans les assurances, voilà, c'était le schéma un peu construit comme ça. Et donc on a décidé donc de faire un bébé et en fait donc ça s'est, on va dire, très bien passé. Je suis tombée enceinte tout de suite, premier essai, et en fait donc j'ai fait mon test de grossesse qui était positif, on était très joyeux, et il se trouve que j'ai fait une fausse couche à 5 semaines de grossesse. Donc voilà, alors quand c'est le premier, enfin on se réjouit, et puis en fait ça a été très vite, 5 semaines c'est très tôt, mais on a quand même les 15 petits jours où on se dit ça y est, on va devenir parent, tout ça. Donc c'est vrai que ça n'a pas été très facile, et puis c'est vrai que le corps médical est quand même assez froid quand on vit une fausse couche. Surtout que quand je suis allée quand j'ai perdu du sang, je suis allée à l'hôpital, et en fait je suis tombée sur une interne, une jeune en fait qui débutait et qui a été assez froide, un peu « Oh, mais c'est pas sûr que vous soyez enceinte, puisque vous avez fait qu'un test de grossesse, il n'y a pas de prise de sang », donc un peu en remettant en cause les choses, et fait une écho, mais je vois rien, et puis en fait, si, ils m'ont fait une prise de sang, j'étais bien en début de grossesse, mais le taux baissait, donc c'était bien une fausse couche spontanée. Donc voilà, elle m'avait fait la prise de sang, je suis ressortie avec un bleu énorme, j'avais le sang qui giclait, enfin, je me disais, c'était très compliqué, et puis en fait, on nous fait ressortir du bureau en nous disant, bon, vous avez fait une fausse couche, madame, c'est bien ça, est-ce que ça va? Donc là, tu regardes la dame, tu dis, oui, merci, au revoir, et puis en fait, tu fermes la porte, et là, je me souviens d'avoir pris mon mari dans les bras et d'éclater en sanglots une fois que la porte était fermée, parce qu'en fait, tu sens que tu n'as pas forcément la place à l'émotion dans ce moment-là. Alors que peut-être que c'est de ça dont on aurait vraiment besoin à ce moment-là. Enfin, bon, c'était il y a 5 ans, peut-être qu'aujourd'hui les femmes elles sont un petit peu mieux accompagnées, mais je ne suis pas totalement sûre.
Je ne suis pas sûre non plus.
Peut-être qu'on en parle plus sur les réseaux sociaux maintenant, mais Mais en tout cas, moi, c'était ma première grossesse et j'en avais très peu entendu parler avant. Donc, bon, c'était un petit coup dur. J'avais rendez-vous chez ma gynéco pour mon début de grossesse, justement, la semaine d'après. Donc, je me suis dit, je garde le rendez-vous et puis je vais aller en parler avec elle. J'étais suivie par un médecin traitant gynécologue. Et donc, je suis arrivée dans le cabinet. Et alors, elle m'a dit, mais madame, vous savez, une grossesse sur trois, je crois que c'est ça à peu près les statistiques finies en fausse couche, donc c'est pas grave, c'est pas normal, mais presque. Enfin, et du coup, elle était hyper rassurante et là, je me suis dit, bon, ouf, c'est bon, c'est pas dramatique. Enfin, je veux dire, c'est, voilà, ça se passe aux autres, c'est pas qu'à moi. Mm-hmm. Et en fait, donc elle nous a beaucoup rassurés. Elle a dit, mais déjà, vous vous rendez compte, vous êtes en mettant enceinte tout de suite, c'est très bien dans le sens où vous n'avez pas eu de problème déjà pour concevoir. Donc, ça veut dire que par la suite, vous aurez des enfants, il n'y a pas de souci. Enfin, vraiment rassurante. Et là, du coup, j'étais ressortie un peu boostée. Donc, et j'ai eu la chance, comme c'était une fausse couche spontanée très tôt, elle m'a dit, de toute façon, vous réessayez tout de suite, il n'y a pas de temps d'attente, tout ça, vous réessayez tout de suite. Et en fait, c'est super rigolo, mais cette fausse couche, en fait, a été la date de dernière règle de ma grossesse pour mon petit garçon. En fait, je suis retombée enceinte tout de suite après. Et donc, quand on me demandait vos dernières règles, bah, mes dernières règles, c'était ma fausse couche que j'ai fait, en fait, où j'ai saigné, mais du coup, ça m'a permis de retomber enceinte tout de suite après. Mmh. Voilà, donc ça a été tout de suite voilà, une joie, on était très contents, mais un peu sur la réserve en sachant que ça pouvait finalement se terminer très rapidement. Voilà, donc mon début de grossesse se passait très bien, j'ai fait ma première écho, on a entendu son cœur et là du coup rassurée de se dire il est bien là, il y a un cœur qui bat, tout va bien, super, c'est cool, on était très contents. Et voilà, la grossesse se passe bien. Et en fait, l'écho des 5 mois, je retourne chez la même personne qui me fait une échographie et là qui dit « Ah, bah, votre petit bébé, il a une dilatation du rein, donc un rein un peu dilaté. » Bon, le personne qui me faisait l'échographie dit « Bon, a priori, rien de grave, mais je vais quand même vous envoyer dans un CHU, donc à une heure de chez moi, pour faire des analyses supplémentaires, pour être sûr de vérifier qu'il n'y a rien d'autre à côté, etc. » Donc, assez rassurant quand même. Mais ils nous ont envoyé faire vérifier par des spécialistes. Mmh. Et du coup, là, je suis tombée dans une case, dans la case possibilité de trisomie 21 avec tous les tests en fait, qui s'en suivaient. Donc, je suis arrivée au CHU, je suis allée toute seule en disant, mon mari, t'inquiète pas, je vais aller me rassurer là-bas, ça va bien se passer. Je sentais, moi, que mon bébé allait bien, donc en fait, j'étais assez sereine. Mmh. Et j'arrive là-bas toute seule, et là, je suis tombée, mais j'ai eu vraiment d'être un morceau de viande, enfin, c'est peut-être dur à dire, mais c'est comme ça, mon ventre a été bousculé dans tous les sens par une échographie où on mesurait le moindre millimètre de mon bébé. Il a la tête un peu trop ronde, il a ci, il a ça, la dilatation, machin, et en fait je suis tombée chez une personne qui m'a parlé de trisomie, mais vous vous rendez compte, il peut être trisomique, va falloir qu'on vous parle un petit peu de l'interruption de grossesse, qu'est-ce que c'est et tout. Et là, je suis ressortie du cabinet. Hein. Oh, mais alors, mon bébé est peut-être trisomique. Et puis, on ne s'était pas trop posé ces questions-là encore. Donc, c'était assez dur à vivre. Donc, voilà. Donc, du coup, là, on m'a dit, écoutez, de toute façon, vous n'avez pas le choix. Il va falloir faire une amniocentèse. Et j'étais à 5 mois passé de grossesse, quasiment à 6 mois. Donc, je sentais mon bébé bouger. J'étais vraiment avancée dans ma grossesse. Et à ce stade-là, c'est... Enfin, je pense qu'à tout stade, c'est pas évident, mais quand on est encore plus projeté dans la grossesse, c'est pas évident. Donc, me voilà encore lancée dans un parcours où je fais mon amniocentèse. Ils me piquent 2 fois parce que la première fois, ils n'avaient pas réussi à bien piquer. Pour celles qui n'ont pas vécu d'amniocentèse, en fait, avec une grande aiguille, ils vont piquer dans le ventre pour aller récupérer un petit peu de liquide amniotique du bébé. Ils le font analyser et ils connaissent la génétique. Enfin, ils savent s'il y a des problèmes génétiques. Des trisomies, tout ça. Donc, et après, on a la sûreté, on va dire, que le bébé va bien ou qu'il est atteint d'une trisomie.
Par contre, excuse-moi, tu disais qu'en fait, ils ne t'ont pas laissé le choix. Ils t'ont dit, madame, vous êtes obligée.
Eh bien, ouais, en fait, on n'en a pas trop laissé le choix. En fait, on me l'a dit après que ce n'était pas forcément obligatoire et qu'il y avait un risque de perdre son bébé en faisant une amniocentèse. Ouais. Et ça, je l'ai vu après.
C'est pas anodin, en effet.
Ouais. Ouais, de savoir que j'aurais pu perdre mon bébé qui était en bonne santé. Donc, il est en très bonne santé, mais... et on ne me l'a pas dit. Donc, on ne l'a pas dit. Et ouais, non, c'était limite, c'était obligatoire. Et puis, la personne que je suis allée voir là au fameux CHU était mais très alarmiste quoi. Donc ça faisait peur quoi. On se dit bah si un spécialiste s'inquiète de mon bébé alors qu'elle en voit beaucoup, enfin Du coup, et puis pas du tout de place pour l'émotionnel, pour rassurer la maman ou pour l'accompagner. Enfin, c'était vraiment, voilà, au revoir madame, on se revoit à la mesenthèse, il faut que vous la fassiez et au revoir. Et là, tu ressors du cabinet, encore une fois, donc assez dépité, quoi, avec bah, des larmes. Et puis, bon, quand on est enceinte, en plus avec toutes les hormones et tout, enfin, on prend les choses des fois très à cœur, enfin, c'était assez difficile. Donc, je fais la myosynthèse, on me pique deux fois. Alors, c'est sans anesthésie. Hein. L'aiguille, elle est rentrée dans le ventre sans anesthésie. C'est comme ça que c'était déjà assez douloureux. Je ressors de la myosynthèse et là, on me dit, c'était 3 semaines de délai de mémoire. Pendant 3 semaines, si on vous appelle, c'est mauvais signe. Si on vous appelle pas et vous recevez un courrier, c'est que votre bébé va bien. Alors là, pendant 3 semaines, accrochée à mon téléphone, le moindre numéro qui m'appelait, j'étais très stressée de savoir qui pouvait m'appeler. Et en fait, on n'a pas eu d'appel. On reçoit un petit courrier comme quoi notre bébé va très bien. Et donc, soulagée. Alors, autant moi, je le sentais parce que dès que j'avais des doutes, pas des doutes ou des peurs, je sentais mon bébé qui bougeait à ce moment-là. Je pense qu'il voulait vraiment me rassurer. Et mon mari, qui ne vivait pas la grossesse, en fait, lui avait un peu arrêté de dire autour de lui, en fait, qu'on allait avoir un bébé parce que... parce qu'on mettait un peu entre parenthèses la grossesse, de savoir ce qui allait se passer par la suite. En fait, on nous parlait d'interruption de grossesse. Mmh. Donc, c'était... Je pense que pour le papa, qui ne vit pas forcément les choses comme nous, les mamans, on sent notre bébé bouger, tout ça, c'est plus difficile. Donc, on a su que tout allait bien. Et là, gros soulagement, c'était bon. Voilà, il n'était pas du tout porteur d'une trisomie et son histoire de rein. Pour la 3e échographie... on m'a dit, allez faire votre échographie dans une petite maternité, il n'y a pas de souci, je vais à la petite maternité faire mon écho. Et le monsieur me dit, oh, mais il n'y a plus de dilatation. Moi, je fais comme si vous n'aviez rien eu avant, je fais mon écho en disant que tout va bien. Et là, je me suis dit, oh, bah, avoir fait tout ça pour ça, mais bon, valait mieux que la fin soit joyeuse puisque tout s'est bien passé.
Bien sûr.
Voilà, c'est ça. Donc après, avec tout ce qui s'était passé, alors je savais que là, je voulais être une maman qui allaite, qui porte, tout ça, qui cododote. Enfin, c'était vraiment les choses qui me tenaient à cœur. Après, pour l'accouchement, je ne savais pas trop. J'avais entendu dire péridurale, pas péridurale. Il faut attendre le plus longtemps possible sans. Bon, bah, ok, je me lance, mais je me laissais guider vraiment par le milieu médical. Et puis, bon, il y a une grossesse quand même assez médicalisée avec tout ce qui s'est passé. J'ai quand même accouché dans une petite maternité de niveau 1. Je voulais vraiment être accompagnée pour l'allaitement, tout ça. Et puis, en fait, le jour de l'accouchement, je me fais sur la poche des os. Le matin, en fait, je me réveille, je ne sais plus, vers 6-7 heures, et je me retrouve un peu mouillée. Donc, je me suis dit, oh, bon, je change de culotte, et je me dis, si je suis à nouveau mouillée, j'appellerai la maternité. Donc, une heure après, je me réveille à nouveau, et j'étais encore trempée. Ils me disent, bah oui, vous prenez une douche, finissez votre sac et venez nous rejoindre. Donc je vais à la maternité, puis je dis à mon mari, bah, va faire ta journée de travail, va travailler, puis si c'est le moment ou pas, je t'appellerai vu qu'il n'est pas très loin. Donc j'arrive à la maternité. Alors c'est marrant d'arriver sans contraction, juste avec une fissure, mais pas trop de travail lancé. Donc j'arrive et on me fait le test de la rupture de la poche des os, on me fait un premier test, on me dit bah non, négatif. Moi, je vais vous en refaire un deuxième test. Et là, elle dit pas négatif. Et puis, comme elle fait un toucher vaginal, elle regarde, elle dit, bah, mes doigts sont quand même assez mouillés. Je vais refaire un troisième test. Et en fait, le troisième test s'est avéré positif. Donc, elle va renvoyer à la maison quand même. Mais bon, j'étais vraiment au tout début de travail. Et puis, un premier, donc je pense que c'était assez long. Donc, elle me dit, bon, bah, si vous voulez, je vais vous poser des aiguilles pour faire un peu d'acupuncture. Je vais vous laisser marcher. Je vais vous laisser... Mais en tout cas, ayant fissuré, vous ne repartirez pas de la maternité sans votre bébé. Donc, on était contents de se dire que ça y est, ça allait être le jour J. Et puis, en fait, ça a été assez long quand même, assez long. Je pense que j'étais vraiment au tout début de travail. Je passe la journée avec des petites contractions, mais voilà, un col qui s'ouvre vraiment tout doucement. Et bon, aujourd'hui, je sais que j'ai qu'une femme à 48 heures pour vraiment être déclenchée, mais là, au bout de la fin de la journée, la sage-femme me dit, bon, ça avance pas, si vous voulez, on peut vous mettre un peu de santo par perfusion, ça va vous aider un peu le travail, tout ça. Donc, bon, bah, nous, on avait passé la journée à maternité, ça avançait pas trop.
Donc, ouais, le synto, pour celles qui ne connaissent pas, c'est l'ocytocine de synthèse, quoi.
Et voilà, c'est ça, ouais. Donc, elles m'ont proposé ça, et n'étant pas du tout informée là-dessus, c'est-à-dire que je n'avais pas du tout lu... j'ai dit oui, de toute façon, à un moment donné, il va falloir que le travail avance un petit peu, donc... Donc oui, bah mettez-moi ça. Donc jusqu'à présent, bah j'avais pas du tout, enfin j'avais des contractions, mais pas du tout de douleur, j'ai aucun souvenir de douleur à ce moment-là. Et là, quand elle m'a mis la perfusion, bah oui, les contractions sont artificielles, donc j'ai vraiment commencé à sentir mon ventre très dur, avoir des contractions très importantes. Et là où j'avais pas forcément envie d'avoir la péridurale tout de suite, on m'a dit attends le plus longtemps possible, etc. Au bout de 3-4 fois, elle m'a dit mais madame, si vous avez mal, prenez la péridurale, de toute façon vous la voulez, donc allez-y. Et en fait, elle m'a fait poser la péridurale assez tôt. En fait, au bout de 3 fois qu'on me le demande, je commençais à avoir le ventre vraiment qui contractait très dur avec des contractions artificielles, là, avec l'ocytocine de synthèse. Je dis bah oui, allez, mettez-la moi, allez, c'est parti. Et donc là, je me fais poser une péridurale. Et en fait, bah, je ne sentais plus rien. Donc, on m'a dit, allongez-vous, reposez-vous. Donc, je dormis. Alors, aujourd'hui, quand je vois un peu les informations que je lis et tout ça, je me dis, dormir pendant l'accouchement. Mais en fait, je ne travaillais pas. C'était mon bébé qui faisait tout. J'étais allongée. Enfin, pas forcément dans une position qui l'aidait, tout ça. Donc, bon. Donc l'accouchement se fait un petit peu long, mais ça avance. Et puis, on me dit, bah, ça y est, vous êtes à l'hydratation complète, madame. Donc, il devait être, je sais plus trop quelle heure. Enfin, on a dû me poser la péridurale en fin de journée. Puis, mon bébé a dû naître vers 2h30. Donc, il y a vraiment eu toute la journée, tout le début de nuit. Et puis, donc, vous êtes à l'hydratation complète. On va attendre que le bébé descende dans le bassin. Donc, on lui laisse du temps. Donc, hop, elle reparte. Et puis, à un moment donné, donc je sentais rien du tout au niveau des contractions, rien du tout au niveau de ventre. Par contre, je sentais encore mes jambes. Si elle me demandait, par exemple, de me mettre sur le côté ou de me mettre à quatre pattes pour me poser sur un ballon, je sentais vraiment bien mes jambes. Et puis, à un moment donné, elles m'ont dit, bon, bah là, maintenant, on va essayer de pousser. Donc, je voulais absolument accoucher sur le côté parce que j'avais vu que c'était quelque chose qui était un petit peu mieux pour éviter les déchirures, tout ça. Donc, j'avais dit, bon, je vais essayer sur le côté. Donc, elles m'ont fait pousser pendant une demi-heure sur le côté. Et puis, au bout d'une demi-heure, la sage-femme, elle dit, mais il n'y a rien qui avance, là, ça ne va pas. Là, ça fait une demi-heure. Bon, mettez-vous sur le dos. Donc, je me suis dit, bon, elles m'ont fait essayer. Bon, elles sont gentilles quand même. Enfin, je voyais le côté un peu. Bon, elle a bien voulu me faire plaisir pour ça. Donc, je me mets sur le dos et puis je pousse. Et à un moment donné, bon, après quasiment une heure de poussée, elle me dit, voilà, va falloir ressortir le bébé, le cœur qui ralentit. Alors, le pauvre, il a été dans le bassin pendant une heure, enfin, vraiment bloqué à la sortie. Donc, j'étais un peu sonnée. Donc, elle me dit, là, maintenant, va falloir y aller, sinon j'appelle le gynéco. Je savais que qui dit appeler gynéco voulait dire instrumentalisation et enfin, je voulais pas ça. Donc là, je pense que j'ai donné une force extrême pour sortir mon bébé. J'ai le senti le cercle de feu, je criais, ça brûlait. J'ai sorti mon bébé et là, au moment de la sortie, je me souviendrai toujours, enfin, ça fait presque 5 ans, mais j'ai vu tout de suite son regard. Il a eu des yeux très fixes et puis mon petit garçon a les yeux vraiment noirs, donc très foncés. Et là, j'ai vu son regard. Et tout de suite, elles m'ont pris, elles ont coupé le cordon, mais tout de suite, à la seconde près, elles l'ont emmené en disant bah, « il est un peu sonné, on vous le ramène, madame ». Donc, je ne l'avais pas eu sur moi ni rien. Donc, ils m'ont emmené dans la pièce juste à côté. Et là, je regarde mon mari. Je dis, t'inquiète, ça va, parce que j'ai quand même hurlé pour sortir. Donc, lui, déjà, il était assez stressé de me voir crier, souffrir et pour sortir le bébé. Et je le regarde et je lui dis, t'inquiète pas, ils vont s'en occuper. Moi, ça va. Et on l'a entendu pleurer à côté. J'ai regardé mon mari en disant, bah, il pleure. On se dit qu'il est vivant, tout va bien. Et j'étais enfin en train de me rassurer, le rassurer en même temps. Donc, j'ai vu la sage-femme finir de s'occuper de moi, de sortir mon placenta. Donc, j'ai vu mon placenta. Bon, je m'occupais. Je tenais le bébé à côté, ça avait l'air d'aller. On ne connaissait pas le sexe de notre petit bébé. Et la sage-femme a proposé à mon mari, bon, est-ce que vous voulez aller le rencontrer dans la salle d'à côté, le temps qu'il aille un petit peu mieux et qu'on puisse vous le ramener. On nous a quand même dit qu'il avait du mal quand même à bien respirer et que si vraiment il ne récupérait pas assez rapidement, il le transférait dans une maternité de niveau 2. Donc on a eu quand même ce petit doute sur la tête et là on nous a dit bah, on est en pleine nuit par contre, donc s'il est transféré, vous serez transféré que demain matin, quoi. Donc là, on pensait très fort pour qu'il récupère vite et qu'on le laisse avec nous. C'est très important pour nous. Et en fait, au bout d'une demi-heure, il allait beaucoup mieux. En fait, il a vraiment, je pense, une fin d'accouchement assez difficile. Et du coup, après, il a très bien récupéré. Donc, mon mari est arrivé dans la petite salle à côté. Et en fait, il a vu un bébé tout jeune naissant et qui a fait du mal à reprendre un peu sa respiration, donc ça l'a beaucoup angoissé. Il est revenu me voir et en fait il se cachait derrière ma tête et je disais ça va, alors tu l'as vu? Il n'osait pas trop me dire qu'il avait été un peu, pas choqué, mais que c'était une image assez difficile à avoir de voir son petit bébé comme ça, qu'il avait du mal à...
Il voulait rester fort aussi.
Voilà, exactement. Puis je pense que déjà, voir un bébé qui vient de sortir comme ça, c'est peut-être un peu impressionnant parce qu'on n'a pas l'habitude. Donc il y avait ça, plus l'aide qu'il avait pour respirer.
Bon, on va faire la petite tétée en même temps que je t'écoute.
Bref, si, je t'en prie. Et du coup, au bout d'une demi-heure, on m'a dit qu'il allait un petit peu mieux et qu'on allait me le ramener dans la petite boîte en plastique, là où il était quand même plein de capteurs pour vérifier qu'il allait bien. Et donc, elles avaient volontairement, les sages-femmes, pas mis de couche pour que je puisse découvrir son sexe, puisqu'il y avait quand même la surprise sexe qui donc, avait été un petit peu dérangée par l'arrivée, du coup. Donc, on m'amène mon petit bébé dans cette petite boîte et je vois que c'est un garçon. Donc là, j'étais très contente de le rencontrer. Mais en fait, on m'a amené un bébé comme ça dans une petite boîte. Mais quand on dit qu'au moment de l'accouchement, d'avoir son bébé sur soi, l'attachement mère-enfant, enfin, je pense que c'est très important parce que là, pour le coup, il est beau mon bébé, d'accord, je peux le prendre dans les bras, ok. Et j'ai eu du mal à me dire, c'est mon bébé, il vient de sortir de mon ventre. Je pense qu'il y a eu cette petite coupure de 30 minutes, une heure, mais qui a fait que, voilà, il a fallu que je me reconnecte à lui et ça a pris quand même quelques jours, le temps de vraiment que je comprenne que c'était bien mon bébé. Donc voilà, donc il a été mis sur moi, tout de suite elles m'ont dit, vous voulez faire la tétée d'accueil? Bah oui, j'ai un projet d'allaitement, je veux allaiter. Donc elles m'ont mis au sein, mais hyper, il ne tétait pas, donc bon, c'est pas grave, je suis retournée en chambre. Et en fait, vraiment, je pense au nez de l'accouchement, il a mis quasiment 48 heures en fait sans manger. Pas, donc on le mettait au sein, il tirait même pas, on lui donnait le petit doigt dans la bouche, il tétait à peine, donc et là j'ai dit aux sages-femmes, de toute manière, mon allaitement est très important, je ne repartirai pas de la maternité sans un allaitement mis en place, donc vous allez me dire tout ce qu'il faut que je fasse, et je vais le faire, et on va partir, mon bébé sera allaité, donc vous allez m'aider. Donc je leur ai dit ça. Là, ils ont dit, bon d'accord madame, donc on va vous amener un tire-lait, vous allez tirer toutes les 2 heures. Le peu de goutte que vous aurez, on lui donnera la petite cuillère. Et ça va lui donner envie de manger et puis il va finir par téter. Donc là, pour le coup, j'ai été vraiment bien accompagnée, on lui donna la petite cuillère.
À aucun moment, elles t'ont proposé d'un complément ou...
Alors, elles m'ont proposé un complément à un moment donné en me disant, bah, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on haut doigt paille. Vous allez mettre un petit tuyau sur votre doigt et on va lui donner un tout petit complément, au moins pour qu'il tète quelques gouttes, pour que ça lui donne envie de manger. Donc j'ai dit, bah écoutez, si vous voulez faire ça, faites-le, il n'y a pas de souci. Enfin, à partir du moment où vous ne mettez pas de biberon dans la bouche, on ne donne pas autre chose que mon lait, voilà, sauf ce petit complément, j'ai dit oui. J'ai dit oui. Pour ma deuxième, j'aurais dit non, parce que je sais beaucoup plus de choses. Mais là, du coup, je voulais vraiment un allaitement qui fonctionne. Donc aussi, si c'est le petit coup de pouce qui fait que ça va démarrer, il n'y a pas de souci. Donc j'ai dit ok. Donc on a fait ça et en fait au petit doigt il arrivait quand même à prendre mon petit doigt et à téter, donc hop, ça l'a fait nourrir un petit peu, ce qui fait qu'après au lieu de continuer à perdre du poids, parce que 48 heures c'est quand même assez long sans manger, il a réussi donc à stagner et puis en fait j'ai réussi, donc moi j'ai eu ma montée de lait à la maternité assez rapidement, je pense au bout de 2-3 jours heureusement du coup. Et donc, je tirais régulièrement. Et puis, j'ai fini par le mettre au sein. Et les sages-femmes m'ont dit, écoutez, ce qu'on peut vous proposer, c'est de mettre des petits bouts de sein en silicone. Donc, ce n'est pas conseillé à tout le monde. Mais là, vu qu'il n'arrive pas à prendre votre maman, ça va au moins l'aider pour commencer à téter. Et bon, j'ai dit, s'il faut qu'il ait ça pour qu'il ait mon lait, pas de problème, je mets ça. Enfin, j'étais vraiment dans l'optique d'une réussite d'allaitement, c'était très important pour moi. Surtout que le début n'avait pas été facile, donc je me suis dit que si je l'allaitais, si ça se passait bien, ça reconnecterait tout ce qui avait été déconnecté.
Du coup, tu étais quand même informée au sujet de l'allaitement à ce moment-là.
Oui. J'ai la chance d'avoir une famille très pro-allaitement. Ma tata, du côté de ma maman, est sage-femme, libérale depuis 30 ans. Elle a été en maternité aussi beaucoup. Donc, du coup, j'avais vraiment une famille très soutenante autour de l'allaitement. Et je savais que j'allais pouvoir être très bien entourée. Donc oui, c'était vraiment... pour moi, il n'y avait pas d'autre solution possible. C'était mon bébé sera allaité et voilà. Je savais que le début pouvait être un petit peu difficile, qu'il fallait s'accrocher. Et je savais qu'après, ça irait. Donc voilà, je me suis dit, allez, je m'accroche. Je me suis accrochée quoi, une semaine. Et puis après, ça a roulé. Donc, avec ce fameux petit bout de sein, il a réussi à prendre mon sein, il a tété, moi j'avais du lait à gogo, donc c'était parfait. Et du coup, on est rentré à la maison comme ça. Et j'avais quand même pour objectif, le plus rapidement possible, on me disait d'enlever ce petit bout en silicone.
Donc, voilà. Ce qui est parfois très compliqué, se sevrer des bouts de sein, oui.
Eh ben c'est ça, ouais. Mmh. Et puis, en fait, bon, au départ, je voyais pas trop de problème. Je voyais qu'il était bien comme ça. Moi, j'avais du lait vraiment à gogo. Je sentais pas de baisse ni rien. Les pics de croissance se passaient bien. Donc, j'avais ça en tête, mais sans forcément me dire que c'était pour tout de suite. Et puis, en fait, un jour, alors j'ai allaité 2 mois et demi avec un bout de sein. En fait, au bout de 2 mois et demi, je suis sortie de la douche et il voulait téter. Et là, je lui ai dit, bah, écoute, mon petit père, j'ai pas le bout de sein à côté. Donc, je te mets au sein et tu têtes si c'est possible. Et en fait, il a pris mon sein, il a tété et il n'a jamais revoulu de bout de sein.
Donc, oh, super, c'était parfait comme ça.
Parfait.
J'ai régulièrement des mamans qui essayent, qui me racontent un petit peu leur cheminement pour essayer de s'en sevrer. C'est pas si évident, quoi.
C'est clair. Ouais, c'est vrai que c'est pas évident.
Ça s'est fait super, quoi. C'était parfait comme ça.
Ouais, voilà. Oui. Et puis à partir du moment où je les ai enlevés, même la nuit, je me disais, oh, j'ai les seins tendus, je vais quand même le remettre pour qu'ils puissent bien téter. Et en fait, non, il n'en a plus jamais voulu. En fait, il crachait et ça a été vraiment le déclic de me dire. Enfin, il n'en voulait plus, quoi. Donc, c'était parfait. Donc, il y a juste une ou deux journées où vraiment le fait qu'il soit en contact avec la peau, ça m'a tiré un peu la peau en me disant, oui, il tète plus fort en fait quand il est sur le sein. Okay. Et puis, au bout d'une journée, on va dire, où j'avais les seins qui chauffaient légèrement, enfin, c'était vraiment pas douloureux ni rien, dès le lendemain, ma peau s'était habituée et du coup, on continuait comme ça.
Donc. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, ça arrive, là, comme tu disais, tu avais beaucoup de lait, mais ça arrive que la succion soit pas la même et que du coup il y a moins de stimulation et que ça soit ben, un déclin de la production lactée, quoi.
Bah oui, et j'ai senti quand il était au sein directement que la succion n'était quand même pas la même et qu'en effet elle est plus forte quand même quand il est directement sur le sein. Donc oui, j'ai vu la différence. Mais après, heureusement pour moi, j'avais pas eu de sensation de manque de lait ou quoi que ce soit. Au contraire, des fois il s'endormait, le coussin était rempli de lait, donc j'avais pas trop d'inquiétude avec ça. Et puis au niveau de ses poussées, ça se passait très bien. Donc. Mais ça peut causer ouais, des baisses de lactation. Et donc, bah, du coup, elle était 3 ans et demi, mon petit bonhomme. Donc, ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé. Et en fait, quand il a eu 4 mois, il a fallu que je reprenne le travail dans ma fameuse entreprise où j'étais dans les assurances, le métier que je voulais avoir avant d'avoir des enfants, tout ça. Et en fait, un mois avant la reprise, je pleurais tous les jours de me dire que j'avais mis au monde un bébé et qu'il fallait que je le confie à quelqu'un d'autre pour aller travailler. Mmh. C'était mais invivable pour moi, vraiment. Je pense que j'aurais pas pu l'imaginer avant de devenir maman. Ça a vraiment été le déclic en devenant maman, de me dire que mais je voulais être avec mon bébé. En fait, la seule chose au monde que je veux, c'est être avec lui, partager mes journées. Il est allaité, il est tout bébé, je veux rester avec lui et je pleurais. Bon. Alors, avec mon mari, on en a parlé. Il me dit, bah, écoute, essaie. En plus, j'avais la chance, je travaillais dans une entreprise où on ne travaillait pas beaucoup en termes de temps et j'avais pris un 80%. Donc, je travaillais 28 heures par semaine. Donc, on voit que certaines femmes font 35 ou 40. Bon, c'est beaucoup moins, mais ces 28 heures, c'était déchirant pour moi. Voilà, le laisser. Donc, j'avais trouvé une nourrice pas très loin de mon travail pour pouvoir le déposer le matin, à retourner le midi pour faire la tétée du midi. Donc, je tirais une fois mon lait le matin. Enfin non, le matin, je lui donnais le sein. Ensuite, dans la matinée, au lieu de faire une pause cigarette, café, comme certains de mon entreprise faisaient, moi, j'allais hop tout de suite à l'infirmerie. Je me branchais à mon tire-lait pendant 10 minutes. Je chronométrais. Tac, je retournais à mon poste. Je faisais ma petite danse de tire-lait le matin. Le midi, j'allais l'allaiter chez la nourrice. Et je retournais travailler l'après-midi, je retirais encore une séance de 10 minutes les deux seins pendant ma pause de l'après-midi et le soir on le retrouvait. Et donc j'ai fait ça pendant jusqu'à ce qu'il ait 15 mois, j'ai travaillé un an en fait. Donc c'est très dur, c'était très dur et pendant un an je me disais mais quand est-ce que ça va s'arrêter, en fait je le voyais grandir. Et puis en fait l'élément déclencheur c'est que je me suis fait opérer de l'appendicite. En novembre, il devait avoir tout juste un an. Tout juste un an, j'allaitais encore, bien sûr. Et donc, pendant l'opération, j'arrive à l'hôpital, j'allaite mon petit garçon. Maman, ne faites pas de produits contre l'allaitement, tout ça. Donc, je me suis un peu battue contre les équipes pour que tous les produits qu'ils me mettent soient compatibles ou que je puisse l'allaiter dès la sortie du bloc. Ça a été très compliqué parce qu'ils ne sont vraiment pas du tout formés en allaitement. Et Même quand ils contactaient la maternité, hein, il y avait une sage-femme qui disait oui, l'autre qui disait non. Enfin, bon, bref.
Des fois, en fait, je pense qu'ils savent simplement pas parce qu'on leur pose assez peu la question.
Ah oui, carrément, oui.
Vrai que maintenant, c'est assez simple d'aller voir sur le CRAT ou sur Iliactancia, par exemple, quels sont les médicaments qui sont compatibles avec l'allaitement. Mais c'est vrai que ce n'est pas un automatisme encore.
Ah non, non, non. Et puis le CRAT, à l'époque, je crois que je le connaissais. Et je disais, mais si, sur le CRAT, c'est marqué que oui, mais nous, madame, ils savaient mieux que moi. Et non, non, vous ne pourrez pas l'allaiter pendant 3 jours, elle m'avait dit. Enfin bref, j'ai eu tous les discours. Et puis finalement, je suis sortie du bloc. J'avais vérifié sur le CRAT. J'avais appelé... des personnes compétentes qui étaient capables de me dire oui, quand vous sortez du bloc, vous tirez éventuellement une fois, vous jetez votre lait parce qu'il y a les doses d'anesthésie, et une fois que ça s'est enlevé, hop, vous le mettez au sein. Donc une heure après, je sors du bloc, je le mets au sein, donc ça s'était bien passé. Et en fait, j'avais été arrêtée 3 semaines de mon travail pour l'appendicite. Et là, pendant 3 semaines, bon, c'était pas évident parce que petit père, je pouvais pas trop le porter, tout ça, mais en fait, être avec lui... C'était ça en fait. Et au bout de 3 semaines d'arrêt, j'avais eu une semaine de vacances, enfin, j'étais restée un mois à la maison et je me suis dit, mais c'est ça que je veux plus y retourner, c'est fini, je veux être avec lui. J'ai mis au monde ce petit garçon pour le voir grandir, le voir vivre, je veux être maman à 100%. Donc on a fait tous les calculs possibles, imaginables, avec mon mari, et en fait on a trouvé une solution pour que je puisse quitter mon travail et rester à la maison avec lui. Donc je suis enfin devenue. Voilà, maman au foyer, on va dire, avec lui. Et là, c'était vraiment le bonheur. Donc, à partir de ses 15 mois à peu près, donc là, j'ai vraiment profité de lui. Il y a eu quasiment un an où j'étais vraiment toute seule avec lui. Et puis après, je suis tombée enceinte de ma deuxième. Il avait un tout petit peu plus de 2 ans. Un tout petit peu plus de 2 ans. Donc là, pour le coup, cette deuxième grossesse, donc j'allaitais toujours mon grand. C'est une grossesse qui a mis un petit peu plus de temps à se mettre en place. Je pense qu'au départ, je n'étais pas forcément prête dans ma tête à ce que je fasse une place tout de suite à un deuxième enfant, parce que j'étais vraiment en fusion avec mon grand. C'était vraiment très, très fusionnel. Un jour en décembre, j'avais vu sur Internet qu'il y avait une grande bénédiction de l'utérus par Miranda Gray, tout ça. Et puis c'était Camille Suez qui faisait la méditation. Et du coup, je m'étais dit, une méditation de l'utérus, moi qui vais avoir un deuxième, ça va mettre un petit peu de temps à se mettre en place. Ça devait faire 6-7 mois qu'on essayait. Et je me suis dit, il faut que je le fasse, ça va m'aider, tout ça. Et en fait, je suis tombée enceinte de ma puce ce soir-là, le 3 décembre, puisque j'ai accouché le 3 septembre, pile poil 9 mois après.
C'est chouette.
Ouais, carrément. Mmh. Là, je sais qu'il y en a une demain et je compte la faire parce que du coup, ça a beaucoup de sens pour moi maintenant que je suis tombée enceinte un soir de méditation là, de l'utérus de pleine lune. Et une grossesse. Donc, alors, étant donné que ça mettait un peu de temps à se mettre en place, on pouvait dire sur Internet, oui, l'allaitement bloque, c'est à cause de l'allaitement que je tombe enceinte, tout ça. Et en fait, rien à voir. Enfin, je suis tombée enceinte toujours en allaitant mon grand, donc rien à voir, en cause des fausses croyances. Et donc là, pour le coup, je me suis dit, alors cette grossesse-là, j'avais dit à mon mari, je ne veux pas d'amniocentèse. Il m'avait dit, oui, mais on ne sait jamais si on va voir ce qui se passe, mais non, je ne veux pas d'échographie dans des grandes maternités et tout, je veux vraiment que des sages-femmes, je ne veux pas de gynécologue. Et en fait, j'ai passé ma grossesse qu'avec des sages-femmes. C'était une sage-femme formée qui m'a fait mes 3 échos obligatoires dans une petite maternité. J'étais suivie par une sage-femme libérale et donc là j'ai pris des bouquins, j'ai lu, je me suis informée et j'ai dit je ne veux pas de péridurale, je veux un accouchement physiologique. J'étais presque prête à accoucher à domicile, sauf que mon mari, étant donné la sortie de mon premier, il avait peur en fait. Il disait j'ai confiance en toi, mais t'as vu notre petit bonhomme, quand il est sorti, il a quand même besoin d'aide, d'assistance et tout. Si ça se passe pour le deuxième, pareil, et qu'on est à la maison, alors que je sais que justement ça ne se serait pas passé pareil. Mais... Donc je lui ai dit bon, je me prépare pour l'accouchement que je souhaite. On va quand même dans notre petite maternité là où on était allé pour le premier, et je ferai. J'avais l'intention en fait de faire pareil que chez moi, mais en maternité. Bon, c'est pas trop, mais c'est comme ça. Mais en tout cas, j'étais dans ma tête, j'étais vraiment sûre de ce que je voulais. Je me suis formée. Je me suis un peu auto-formée parce qu'en fait, quand on va chez la sage-femme et qu'on dit oh, je veux accoucher sans péridurale, ah bon d'accord, on me propose finalement enfin, une préparation à l'accouchement totalement classique. Hein. Donc, personne ne m'a trop appris sur l'accouchement naturel, sans péridurale, dans ces moments-là. Donc, en fait, j'ai lu beaucoup de livres. J'ai lu la méthode Bonaparte, j'ai lu que, voilà, tout son livre avec les positions de yoga, avec les points d'acupuncture, tout ça. Et ma super tata, qui est sage-femme, j'étais allée en vacances chez elle et elle a passé du temps avec nous deux pour nous expliquer plein de choses. Elle a appris à mon mari à masser dans le bas du dos là, pour que ça me soulage les contractions. Elle a dit, voilà, tu vois, les points d'acupuncture, ils sont là. Si elle a mal, t'appuies.
Elle a pu prendre vraiment le temps aussi.
Voilà, c'était vraiment toute seule avec elle parce que je suis sa nièce. Donc, elle a vraiment pris avec nous. Puis, elle est passionnée. Donc, c'est trop bien. Donc, du coup, elle s'est vraiment boostée à fond. Et puis, moi, elle en a vu dans sa carrière des femmes passer. Et elle a fait beaucoup d'accouchements en maternité aussi. Et elle disait, je sentais qu'elle avait totalement confiance en moi. Elle en a vu plein, confiance en péridurale. C'est totalement possible. Donc, ça m'a vraiment rassurée. Et puis, je pense que ça a rassuré aussi mon mari d'avoir son discours, son avis, et de sentir que voilà, c'était totalement possible et que j'allais y arriver. Et j'étais vraiment sur le moment. Et donc voilà, la grossesse se passe super bien, une grossesse sans aucun problème médical. Enfin, juste les trois échos, à chaque fois les échos, mais tout va bien. Ah, qu'est-ce que ça fait plaisir, quand j'avais des petites appréhensions à chaque fois de me dire qu'est-ce qu'ils vont trouver cette fois-ci, mais non, tout va bien. Le fameux 3 septembre, donc 9 mois pile poil après la mutation de l'utérus, je fissure la poche des os encore une fois. Donc, comme pour mon premier, je me retrouve avec une culotte mouillée. Donc, je pense que j'ai fissuré. Je savais qu'il ne fallait pas que j'aille trop tôt à la maternité pour le coup. Donc, je dis, bon, on va rentrer à la maison, je vais essayer de me coucher, on va voir. Je peux ne pas avoir trop remarqué que ma culotte était mouillée, histoire de gagner un petit peu de temps. Et puis, je m'étais dit que si ça allait vite et que je restais chez moi, c'était pas plus mal. Mais bon. Je rentre à la maison et en fait, je m'allonge pour pouvoir dormir et c'était dur en fait de rester allongée. Donc, j'ai vraiment passé la nuit à être sur un ballon, prendre une douche, à pas pouvoir rester trop en place. Je sentais vraiment quand même des bonnes contractions, des douleurs dans les reins, tout ça. Le travail était vraiment quand même mis en route. Et j'avais prévenu ma maman qui venait garder mon grand et je lui dis, bon, vaut mieux que tu dormes à la maison, comme ça, si jamais dans la nuit on part à la maternité, je ne vais pas te réveiller à 1h ou 2h du matin pour que tu viennes. Donc elle m'a dit, je viens dormir, comme ça, je dors à l'étage avec ton grand et vous êtes au rez-de-chaussée et voilà, vous faites vos allers-retours si vous avez besoin de partir ou quoi. Donc, à 1h du mat, je réveille mon mari en disant, je commence vraiment à avoir mal, je pense que je suis quand même en début de travail, ça fait quelques heures quand même que j'ai fissuré, ce serait bien qu'on aille voir. Donc, j'appelle la maternité, je me dis oui, venez vérifier, tout ça. Donc, on arrive à la maternité et j'explique à la sage-femme que pour mon premier, j'avais fissuré, mais que c'était le troisième test qui avait été positif. Et donc là, elle m'ausculte, elle fait le test qui était négatif et en fait, elle m'en fait qu'un. Et elle me dit, vous êtes sûrement en début de travail, rentrez chez vous, je pense que volontairement, elle n'a peut-être pas fait un deuxième ou un troisième test, parce que je pense que j'avais bien fissuré, mais je suis tombée sur une crème de sage-femme et qui voulait, je pense que je rentre chez moi pour être vraiment bien pour mon début de travail. Donc c'était cool qu'elle me dise ça, et qu'elle n'aille pas chercher vraiment à voir si j'avais vraiment fissuré, mais bon, j'étais sûre de moi. Donc je rentre à la maison, alors les trajets, il y a 20 minutes pour aller à la maternité, je hurlais tout le long du trajet, à l'aller, au retour. C'est la première fois que ça m'avait fait ça, je pense que les secousses de la voiture me faisait vraiment très mal, mais allongée, je ne savais plus comment me mettre. Donc j'arrive chez moi et impossible de dormir, donc je passe la nuit à essayer de dormir un petit peu, me relever, c'était une nuit assez compliquée. Et je me lève le lendemain matin au réveil de mon petit bonhomme vers 9h et là je marche dans le couloir et j'avais carrément un gros filet de liquide qui coule tout le long de ma jambe. Donc là, je dis, si je n'ai pas fissuré là, qu'est-ce qui se passe? Donc vraiment un liquide transparent, pas du tout odorant, enfin vraiment du liquide amniotique. Et donc je me suis dit, bon, de toute façon, la sage-femme m'a dit que ça ne servait à rien de venir trop tôt. J'arrive quand même à parler, à marcher, à m'occuper de mon petit garçon, donc je vais encore attendre. Donc je passe la matinée, bon, à avoir un petit peu mal quand même, mais à bien gérer. J'essaie de me mettre dans ma baignoire en me disant je vais me prendre un bon bain, et en fait j'étais pas bien dans la baignoire. Moi qui rêvais un peu des accouchements d'angle, tout ça, en fait là pour le coup j'avais pas du tout envie de ça. J'étais pas bien dans ma baignoire, je pouvais pas bouger, j'étais pas à l'aise. Donc, j'ai une amie qui est formée au massage bébé, au massage, qui m'a appelée ce jour-là en me disant « Ah bah Chloé, je suis à côté de chez toi, si tu veux, je peux venir. » Donc, je lui ai dit « Ah, je suis un peu en début de travail, et bah viens, je vais te masser. » Et alors, on m'a fait un massage de 30 minutes, mais vraiment dans le bas du dos, elle a travaillé les endroits qui étaient un petit peu tendus. Ah, c'était génial. Je pense que ça m'a aussi aidée à lâcher prise, à être vraiment dans un début de travail serein. Je me sentais vraiment entourée de femmes vraiment bienveillantes. J'avais ma petite sœur qui était là pour garder mon petit garçon, ma maman pas loin, cette amie que j'aime beaucoup qui me massait. Enfin, c'était vraiment cool. C'était un bon moment. Et puis, on avait dit avec mon mari, j'endors mon grand garçon pour la sieste, parce que les endormissements se faisaient encore au sein. Il avait un petit peu, enfin, 2 ans et demi, un petit peu de 2 ans et demi. Mais... Donc, j'endors mon petit loup. Donc, je lui fais une tétée pendant mon travail. Donc, j'avais un peu mal au sein, mais du coup, ça, voilà, ça m'a peut-être aidé un peu aussi pendant le travail. Je l'endors pour sa sieste et on part tous les deux à la maternité. Donc là, j'arrive vers 14h à la maternité. Donc, il y avait eu un changement de garde. Forcément, ce n'était pas la super antisage femme de la nuit. Là, je tombe sur quelqu'un qui, déjà, me rouspète pour être aimable de ne pas être venue plus tôt. Bah oui, j'avais fissuré depuis... J'étais sûre depuis 9h le matin, mais... Ah bah oui, c'était inadmissible pour les risques d'infection et tout. Et là, j'ai regardé mon mari, j'ai dit, bon, bah, je pense que là, le courant va être difficile pour qu'on... Voilà.
Ça, il faut savoir que les protocoles sont tellement différents d'un pays à l'autre. Par exemple, il me semble que c'est la Finlande ou peut-être la Norvège, où ils laissent 24 à 48 heures. Enfin, voilà, c'est vrai que ça, c'est très, très différent d'un endroit à l'autre.
Carrément. Donc, bref, voilà, déjà, ça mettait un peu les barrières. Et puis, elle regarde mon projet de naissance, qui était un projet de naissance très... j'avais vraiment mis ce que je voulais pas, ce que je voulais. Vu mon premier accouchement, j'étais vraiment sûre sur plein de choses. Et voilà, je ne voulais pas de péridurale. Donc, elle me regarde en me disant, bah oui, vous avez bien fissuré. Oui, vous êtes bien en début de travail, parce que j'étais quand même bien en début de travail. J'étais quasiment à 4 cm. Mais comme vous ne voulez pas de péridurale, on va vous laisser... Non, elle dit comme vous voulez qu'on vous laisse tranquille. Eh bien, je vais vous laisser tranquille. Vous allez aller en chambre et puis vous m'appelez que si vous avez besoin. Alors, ce qu'avec mon mari, bon, alors c'est pas trop ce que j'avais écrit noir sur blanc. J'avais juste mis que je ne voulais pas de péridurale, mais je ne voulais pas forcément être abandonnée, ni rejetée, ni... j'aurais bien voulu avoir une sage-femme gentille qui me dise, bah, c'est super. Enfin, bref, voilà, je n'étais pas du tout... Non. Bon, j'ai dit, c'est pas grave. Je suis sûre de mon projet. Je suis sûre de ma... capacité à accoucher sans péridurale, donc c'est pas grave. J'ai pris mon mari, on est partis tous les deux et on a fait 2 fois le tour de la maternité à l'extérieur. Mon premier tour, ça allait. Deuxième tour, je m'arrêtais régulièrement en disant ça commence à travailler. Et puis, on retourne dans la chambre, je remarche à l'intérieur de la maternité et ça commençait à devenir un peu dur. Je l'appelle pour lui demander de savoir où j'en étais, parce qu'en fait je contractais, je commençais à avoir un peu mal et je voulais savoir si mon corps refaisait bien les choses. Donc, puis comme on est un peu dans les protocoles médicaux, on a envie quand même de savoir où on en est. Donc, vous voulez un toucher vaginal? Oui, je veux savoir où j'en suis. Bon. Et elle me dit, vous êtes à 5 cm ou 6 cm. Et là, je me dis, j'étais à 4 il y a 2 heures, donc ça veut dire 2 cm en 2 heures. Enfin, ben en fait, ça va être trop long, quoi. Ça va être dur. Je commence déjà à être fatiguée. Et là, la phase de désespérance, alors elle arrive assez tôt pour moi, je dirais. Mais alors là, du coup, effondrement, en fait, à me dire, mais en fait, je ne vais pas y arriver, ça va être trop long. La sage-femme, du coup, qui ne me proposait rien vraiment pour m'aider, ni des positions, ni du soutien, ni rien du tout. Elle referme la porte en me disant, bah voilà, vous en êtes assis tout à l'heure, vous rappelez-moi plus tard, de toute façon, ça avance pas très vite. Donc voilà, et en fait, j'aurais aimé qu'elle me dise, parce que ma sage-femme libérale m'en a parlé après, j'aurais aimé qu'elle me dise qu'un deuxième, des fois, les premiers centimètres sont longs, mais qu'après, ça peut aller très vite. Et ça a été très vite après, en fait. Donc, si elle m'avait rassurée en me disant, bah, des fois, ça peut aller vite après, vous avez déjà fait beaucoup de chemin, tout ça, je pense que ça aurait été rassurant, mais bon. Donc, à ce moment-là, je me retrouve à nouveau dans la chambre, toute seule, avec une contraction qui commençait à être douloureuse. Et en fait, au lieu de me mettre dans ma bulle, je me suis, en fait, contractée. À chaque contraction, je pense que je me contractais, et donc... voilà, bah, ça, c'était sûrement un peu plus loin à cause de ça. Mon mari est venu un peu me masser, et là, c'est vrai que pendant le massage, je ne sentais plus rien, c'était vraiment agréable. me suis remis un peu sous la douche, tout ça, et puis je commençais à sentir que ça faisait vraiment mal et que ça poussait un peu, donc j'ai fini par la rappeler. Alors, il faut savoir que juste avant, quand je l'avais appelée, en fait, sur les ballons de maternité, je m'étais dit, je vais me mettre un peu sur le ballon, ça va me permettre d'être en mouvement, tout ça. Quand on fissure la poche des os, on a une espèce de grosse couche, là, les trucs énormes qu'il faut mettre. Donc, je l'avais enlevée parce que sur le ballon, avec une grosse couche énorme, bah, on n'est pas du tout mobile, en fait. Donc, je l'avais enlevée pour être à l'aise. Elle est rentrée dans la chambre et elle m'a incendiée parce que j'avais enlevé la fameuse couche bah, qu'il fallait garder. Oh. Et, mais alors, vraiment, mais infantilisée et tout. Et en train de travailler ta malle, t'es dans ton truc et oui, bah, je vais en mettre une. Donc, du coup, voilà, il fallait surtout pas que j'enlève la fameuse couche, c'était très important de la garder pour les microbes ou je sais pas quoi. Bref, ok. La fois d'après, quand elle était revenue, elle avait vu que j'avais. En fait, je l'avais changée. Donc, elle arrive, elle voit dans la poubelle une fameuse couche, donc elle commence à me réengueuler. Et je lui dis non, j'ai juste changé pour qu'elle soit propre parce que si. Ah, d'accord, bon, d'accord. Et voilà, c'était vraiment quelqu'un qui n'était pas du tout dans le dialogue, pas du tout douce, vraiment très agressive. Et voilà, c'est déjà, je pense que le rapport était compliqué. Et donc, je m'étais donc à 8-6 cm. Là, je commençais vraiment à commencer à sentir que bah, mon corps faisait passer bébé quand même vers le bassin, tout ça. Donc, je la rappelle, je dis à mon mari, là, écoute, j'ai vraiment trop mal, je me crispe. Je sens vraiment que ça commence à pousser. Faut qu'on l'appelle et enfin, je dis qu'elle me propose quelque chose, quoi. Je sais pas, qu'elle m'aide, enfin, qu'on m'accompagne en fait. Je voulais juste qu'on m'accompagne. Et du coup, il la rappelle. Donc là, elle arrive, elle dit bah écoutez, vu que vous voulez pas de péridurale, la seule chose qu'on peut vous proposer, c'est de respirer de l'oxygène. Elle dit ça va vous détendre un peu. Bah, j'ai dit je veux pas de péridurale, je veux juste me détendre un peu. Bah oui, oui, je prends ça. en dépit de cause, je prends ça. Et en fait, elle m'a envoyé donc dans la salle d'accouchement, et puis donc déjà le traverser le couloir, ce qu'elle m'avait mis tout au bout du couloir, je traverse tout le couloir avec mes contractions en faisant une pause. Marie m'a pris en photo à ce moment-là, et avec les photos parlent d'elle-même, j'en souviens plus trop, mais oui, je faisais des pauses et j'avais d'être bien au travail. Et du coup, j'arrive dans la salle, donc elle me dit bah, allongez-vous sur le côté, respirez un petit peu d'oxygène et puis essayez de vous détendre. Et en fait, bah ouais, ça m'a complètement détendue en fait. Et donc, elle me dit, bon, mettez-vous là. Je vais, donc c'était un changement de garde. Donc, elle dit, je vais présenter votre accouchement sur un plateau à ma collègue qui va finir le travail. Donc, je dis, ok, pas de souci. Et en fait, je m'allonge, je commence à respirer. Et là, je sens que ça commence à pousser un peu. Enfin, je commence à pousser. Et donc, je dis à mon mari, bah, rappelle-la, je sens que mon corps pousse, en fait. Et puis, quand on n'a pas de péridurale, on ne retient rien, on sent tout. Enfin, le corps expulse, en fait, le bébé. Donc là, je sentais que ça commençait. Et donc, tout de suite, il la rappelle. Et elle a dit, ah, non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Bah, je dis, si, je sens que ça commence à pousser, là. Je pousse, je commence à expulser mon bébé. Et donc là, je pense qu'elle s'est dit, bah, en fait, je ne peux pas faire mon passage de relais à l'autre équipe, il va falloir que j'assiste à l'accouchement de cette dame-là et que je fasse du rap, puisque du coup, elle a fait du rap. Donc, elle était encore moins agréable qu'elle ne l'était avant.
Cette femme, ça avait l'air compliqué d'être moins agréable encore.
Oui, bah non, c'est pour le coup, elle a vraiment été pire. Donc, bon, elle s'est mise à côté de moi. Alors, mon mari a encore pris une photo. J'ai cette photo. Elle a une tête, mais dépitée. Elle est contre le mur, en train de me regarder, mais avec des yeux vraiment foncés, à dire, sur son visage, on sent, mais sous celle-là, quoi. Je voulais rentrer chez moi. Pourquoi je suis encore là? Et à côté de ça, elle était accompagnée par une auxiliaire de puère qui était vraiment un amour. Du coup, elle s'est mise à ma tête et avec sa petite voix bienveillante, elle me dit « Oh madame, ce que vous faites, c'est merveilleux, vous faites du bon travail et tout. » Et en fait, j'avais cette petite voix et je me suis dit « Heureusement qu'elle était là. » En fait, c'était la petite voix dont j'avais besoin finalement parce que mon corps faisait des choses, j'étais vraiment confiante, j'étais déterminée dans mon projet. Mais en fait, j'avais juste besoin de cette petite voix qui me rassurait. Que mon mari avait tenu, mais pour un homme, je pense que c'est pas évident, comme on vit pas les choses, on voit sa femme souffrir, tout ça, donc c'est pas évident des fois de soutenir quand on sait pas trop ce qui se passe, qu'on n'est pas trop informé des étapes en fait de l'accouchement. Et du coup, cette dame-là était vraiment un amour, contrairement à l'autre. Et donc, j'aurais voulu idéalement me mettre dans une position vraiment physiologique ou accroupie ou à genoux. Et puis, en fait, elle m'avait allongée sur le côté et elle me dit « Bon, bah, ça vous convient comme position pour accoucher? Là, vous êtes bien. Bah, sinon, j'aurais voulu me mettre accroupie ou à genoux. Ah oui, mais comme vous respirez de l'oxygène, ça va vous tourner la tête. De toute façon, vous ne pouvez pas vous lever. » je peux pas me lever, bon, bah, c'est pas grave, je vais accoucher sur le côté. Donc vraiment pas du tout la possibilité de choisir la position. Donc je suis restée comme ça. Et voilà, le travail vraiment s'est mis en place. J'ai expulsé mon bébé, la tête est sortie. Et donc j'ai vraiment senti le cercle de feu, voilà, la grosse brûlure. Je sors mon bébé. Et au moment où je sors mon bébé, elle m'a jeté les jambes en fait sur le côté pour que je me mette sur le dos, mais alors, vraiment sans mon avis ou quoi que ce soit. Je me suis retrouvée donc du coup sur le dos. Je savais que c'était la position à pas du tout avoir pour que ça se passe naturellement. Et je me souviens qu'on m'avait expliqué que quand les jambes sont écartées, en fait, le bassin se resserre. Et quand on a les jambes qui sont plutôt rapprochées, le bassin, en fait, s'ouvre un peu. Ma tante m'avait montré un os de bassin pour m'expliquer. Et là, je me suis dit, je suis sur le dos, c'est pas grave, il faut que je resserre mes jambes. En fait, je me suis dit ça pour que mon bébé passe plus facilement. Donc, je serrais les jambes pendant qu'elle essayait de les ouvrir les épaules passent, je pense, et en fait elle a vraiment stressé au moment où la tête est sortie et que les épaules n'étaient pas encore sorties. Elle a vraiment crié pour que les épaules sortent vraiment tout de suite, alors que je vois certains accouchements à domicile ou autres où bah, des fois la tête est sortie, on laisse quelques minutes quand même à la maman pour expulser les épaules, enfin je sens pas cette grosse urgence à sortir les épaules, bon, en tout cas là il y avait une grosse urgence visiblement. Donc je sors les épaules, je pense qu'elle a un peu tiré, et là je suis sûre qu'à ce moment là j'ai déchiré. Donc voilà, je me retrouve donc hop, à sortir mon bébé. Là, on me le pose tout de suite sur moi. C'est merveilleux de découvrir ça. J'avais demandé un clampage tardif du cordon. Donc elle me dit bon, je coupe pas tout de suite. Hein. Non, coupez pas. Donc je retrouve avec mon bébé. On découvre que c'est une petite fille. Donc on était vraiment ravis. On connaissait pas le sexe. C'était vraiment beau. Et puis elle me redemande une deuxième fois je peux couper Non, attends, encore. Ah, elle a été très pressée de couper. Hein. J'aurais voulu idéalement qu'on attende que le placenta sorte avant de couper, mais bon. Et au bout de 5 bonnes minutes, elle me dit « Bon, bah, je peux couper maintenant ?» Je dis « Il a fini de battre. » « Oui, oui, ça fait plus de 5 minutes. C'est bon, il a fini de battre. » Bon, bah, je me suis dit « Bon, déjà, j'ai attendu. Visiblement, j'ai poussé au maximum puisque ça a l'air très compliqué pour elle. Donc, bon, déjà, elle a bien voulu m'accorder ces 5 minutes. Je vais finir par dire oui. Donc, bah oui, allez-y. » Donc, mon mari a coupé le cordon. Voilà, et là du coup elle me dit est-ce que je peux vous mettre de l'ocytocine de synthèse. Alors j'avais pas trop lu sur l'ocytocine de synthèse, j'avais vraiment lu sur l'accouchement et le placenta, j'avais pas vraiment, voilà, vraiment consulté tout ça. Donc je dis bah oui, bah allez-y, j'avais mon bébé sur moi, j'étais bien, bon bah oui, faites ce que vous voulez maintenant, j'ai mon bébé, j'ai accouché sans péridural, c'était mon objectif, c'est bon, allez-y. Donc elle met l'ocytocine de synthèse, le placenta sort.
C'est chouette qu'elle t'ait demandé déjà, parce que c'est souvent administré sans même qu'on en parle.
Ok, donc là elle m'a quand même demandé, et c'est vrai qu'on s'est regardé avec mon mari et je me souviens plus ce qu'on m'avait dit en fait sur cette ocytocine de synthèse, je me souviens plus. Donc aujourd'hui je sais que l'ocytocine, c'est une hormone qu'on produit quand on a notre bébé, quand on a de la chaleur, tout ça, donc aujourd'hui je le sais, mais à l'époque je ne savais pas, donc j'ai dit bon oui allez-y. Mais oui, c'est vrai qu'elle m'avait demandé. Elle m'avait demandé quand même. Parce qu'à la base, je voulais pas de perfusion, en fait, comme j'accouchais sans péridurale. Et elle m'avait dit, est-ce qu'on peut juste vous mettre une perfusion quand même sur la main, mais on vous branche à rien du tout. Donc, elle m'avait dit, bah oui, allez-y si vous voulez. En fait, on est vraiment, quand on accouche à la maternité, je trouve qu'on est quand même prisonnier des protocoles, même si on veut faire différemment. En fait, je m'en suis rendu compte après avoir vécu cette deuxième accouchement où je voulais vraiment quelque chose de naturel. En fait, on ne peut pas avoir quelque chose de naturel à la maternité, ou alors il faut vraiment tomber sur une perle, ou alors il faut arriver vraiment au dernier moment pour pas qu'ils aient le temps de faire les choses. Mais sinon, c'est compliqué, je trouve. Enfin, en tout cas, pour moi, là, c'était... Je me suis battue sur tout, en fait. Le clampage, il a fallu qu'elle demande 3 fois... Bref, donc du coup, le placenta sort. Je voulais une photo de mon bébé avec le placenta, idéalement accroché, mais bon, c'était pas possible. Donc, elle sort le placenta. Alors, j'expose le placenta. Elle me met de côté, là, dans les fameuses petites pochettes, tout ça. Et puis, je lui dis, mais je vous avais mis que je voulais une photo de mon bébé avec son placenta, tout ça. Ah bon, vous voulez ? Oui, s'il vous plaît. Donc, elle me ramène le placenta. Pas forcément d'une manière très accueillante, hein, forcément. Je lui redemandais quelque chose de plus qui lui prenait du temps. Et du coup, elle me met donc le placenta à côté de mon bébé. Je pose mon bébé à côté, qui du coup n'avait pas trop envie d'être posé comme ça, toute nue à côté de moi, donc il pleurait un petit peu. Mais j'ai cette fameuse photo. Je récupère mon bébé sur moi. Elle emmène le placenta. Voilà, c'était fait. Et là, elle me dit, bon, vous avez déchiré. Je vais vous recoudre. Donc, ok. Elle me dit, je vais vous faire une piqûre d'anesthésie. Ok. Donc, je sens la piqûre. Ok. Et là, elle se met à me recoudre sans attendre. Donc, en fait, je n'avais pas l'anesthésie. Et donc là, je me mets à hurler parce que quand on se fait recoudre à vif, c'est très douloureux. Et je me mets à hurler que j'avais mal, qu'il fallait qu'elle arrête. Et en fait, elle ne me répondait pas et elle continuait ses points. Et mon mari était à côté, c'est lui qui m'a raconté parce que moi, je pense que j'ai fait vraiment un... Enfin, j'ai oublié ce moment-là parce que c'était vraiment très douloureux. Et je lui disais, mais combien il en reste? En fait, je voulais qu'elle me dise combien il en restait pour me dire, allez, il reste plus que 2 points, souffle un bon coup. Donc, elle me redonne le masque à ce moment-là et elle me répond pas. En fait, elle continue de faire ses points. Donc, elle en a fait 6. Sans me parler, sans répondre quand je lui demandais d'arrêter et sans me dire combien il en restait quand je lui demandais. Donc, en fait, je pense qu'elle a vraiment fini le travail comme ça. Et pour le coup, c'est la partie la plus traumatisante de mon accouchement. J'accouche en péridurale, il n'y a pas de souci. Je sors mon bébé, il n'y a pas de souci. Le patient n'a pas de souci. Mais se faire recoudre à vif, ça, c'est le truc qui me reste un peu en travers de la gorge. Mmh. Cet accouchement, parce que j'avais mon bébé sur moi, je hurlais de douleur. Enfin, je trouve que comme accueil pour un bébé, c'est pas l'idéal. Donc voilà, on va dire que j'ai eu le droit à ça. Donc suite à ça, elle a pu... alors, il se trouvait que j'avais perdu beaucoup de sang, donc elles m'ont appuyée sur le ventre, mais alors de tout leur poids, hein, 2-3 fois pour voir si je ressaignais encore. Je ne sais pas comment on peut, mais mettre tout son poids sur le ventre d'une femme qui vient d'accoucher, même sous prétexte de voir si je ne fais pas d'hémorragie, c'est très douloureux aussi. Bon. Donc voilà, je me suis retrouvée donc, avec l'accouchement terminé. Elle m'a dit au revoir et elle est partie. Et là, du coup, la nouvelle équipe a pris le relais, mais bon, avec une heure et demie de retard, en fait, parce qu'il a fallu gérer l'accouchement. Puis l'après-accouchement, en fait, elle ne pouvait pas partir entre deux. Donc voilà, donc du coup, j'ai mis... la personne qui arrivait était beaucoup plus cool. J'ai mis mon bébé au sein et là, on a pu avoir vraiment du temps pour se découvrir, pour la faire téter. Donc, elle tétait super bien. Elle était vraiment très éveillée. Enfin, entre les deux accouchements, donc avec péridurale, où ça s'était pas très bien fini, et cet accouchement-là sans péridurale, avec une expulsion assez rapide, bah, du coup, mon bébé était vraiment très en forme. C'était vraiment super. Et puis, bah, l'avantage du pas de péridurale, c'est que je sors de la salle d'accouchement. Bah, madame, vous voulez... aide ou pas, non, allez, c'est hop, je me suis assise, je me suis mise debout, j'ai pris mon bébé, je suis sortie de la salle, j'ai traversé le couloir et puis au bout, il y avait mon petit garçon et ma maman qui m'attendaient pour rencontrer la petite sœur, donc c'était vraiment un beau moment et voilà, donc bah, du coup, j'ai commencé un co-allaitement parce que mon grand était toujours allaité, donc j'ai commencé un co-allaitement. Ils ont été... Ah oui, pour finir avec l'accouchement, c'est que j'avais demandé dans mon projet de naissance en fait une sortie anticipée. Je voulais vraiment rentrer à la maison rapidement. Comme je savais voilà, que j'accouchais sans péridurale, je savais que je pouvais ressortir assez rapidement et je n'avais pas trop envie de laisser mon grand tout seul parce que comme il dort encore avec nous, tout ça, je voulais vraiment qu'il soit pas trop perturbé de mon absence. Je voulais bien rester une nuit, mais pas plus. Donc j'ai accouché le soir à 20h. Et je voulais ressortir le lendemain dans la journée. J'avais dit, je veux bien rester 24 heures si vous voulez, mais je ne veux pas rester plus de 2 nuits. Et en fait, sachant que normalement, légalement, on doit rester 2 heures maxi et on ne peut pas trop nous retenir après. Et ça a été très, très mal vu, en fait. Toute la nuit, les sages-femmes sont venues me voir dans la chambre en me dissuadant de partir le lendemain. Mais vous savez, votre bébé peut avoir un problème dans la nuit, peut décéder de chez vous. Enfin, en disant des trucs qui me faisaient peur, quoi. Mais oui, mais je vais bien, mon bébé va bien, elle tête. J'ai une expérience d'allaitement long avec mon grand, donc j'ai pas du tout de problème ni d'allaitement ni quoi. Ma petite tête est super bien. Donc ils m'ont vraiment dissuadée. Et le lendemain matin, c'était la même sage-femme que celle qui était là à mon accouchement, qui revient le lendemain en me disant bah, vous avez des questions de votre accouchement? Non, je veux juste rentrer chez moi, c'est tranquille. Elle dit, bah, écoutez, si vous voulez partir, c'est contre avis médical. Donc, je dis, bah, contre avis médical, si vous voulez, je signe quelque chose, il n'y a pas de problème. J'avais planifié avec ma sage-femme libérale qu'elle vienne à la maison dès le jour même, en fait, et tous les jours après, pour faire un suivi médical à la maison. Donc, je ne sortais pas sans rien. J'avais vraiment bordé les choses pour que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas de problème. Donc la sage-femme me dit, bah écoutez, si vous voulez partir, c'est maintenant à 15h là, et vous prenez vos valises et vous partez. Donc j'ai pris mes valises, j'ai pris mon bébé, j'ai traversé le couloir et je suis partie. Et il y a juste une auxiliaire de puerperie qui est sortie la tête qui a dit, bah bon retour à la maison madame. Et elle a dit, merci, merci, parce que vraiment là, l'accueil, zéro quoi, vraiment zéro, j'aurais été mieux à la maison. Et là, je me suis dit, bon, j'avais envie d'accoucher chez moi, j'aurais dû accoucher chez moi et pour un prochain, j'accoucherai chez moi. En fait, là, la maternité, je pense que ça y est, je suis un petit peu dégoûtée de tout ce qui s'est passé, malgré que l'accouchement se soit finalement très bien passé. Enfin, voilà, ça s'est très bien passé, mais je pense que je n'ai pas été très bien accompagnée, on va dire. Donc voilà, donc le retour à la maison s'est très bien passé. La sage-femme est passée le soir même en pesant mon bébé qui avait déjà, au bout de 24 heures, qui avait déjà stagné. Enfin, elle perdait à peine du poids. Le lendemain, elle stagnait et elle avait déjà récupéré son poids de naissance au bout de 3-4 jours. Enfin, le truc super. Félicitations du jury, tout nickel quoi. Donc c'était parfait, l'allaitement. Puis comme mon grand était encore, en fait, bah, la montée de lait, elle s'est faite, mais très vite. J'avais du lait à gogo. Quand le grand était d'un côté, l'autre, ça coulait tout seul. Donc elle avait vraiment plus qu'à téter et à prendre tout ce qu'elle voulait. Donc c'était parfait. Donc c'était vraiment très bien. Donc voilà, du coup, j'ai co-allaité pendant 7 mois. Et après, au bout de 7 mois, j'ai senti un petit rejet de mon grand, en fait. Je supportais plus trop les tétés. C'était douloureux pour moi. Et puis, instinctivement, j'avais vraiment un rejet. Quand il s'approchait de ma poitrine, tout ça, je sentais vraiment un peu d'agressivité, tout ça. Et je me suis dit, bon, je pense que 3 ans et demi, 7 mois de co-allaitement, j'ai envie de vivre l'allaitement avec ma petite maintenant. Donc, j'ai induit un sevrage comme ça, tout doucement, en expliquant qu'il était grand, que ça me faisait un petit peu mal, que j'étais plus trop d'accord pour que les tétés continuent, mais que je voulais bien me faire un câlin, tout ça. Donc il y a eu un peu de frustration au départ. Et puis petit à petit, les tétés ont vraiment diminué. En temps aussi, je le faisais téter très très peu, en fait, enfin, sur quelques secondes, à peine une minute, et hop, je l'enlevais du sein. Et en un mois à peu près, on a fait le sevrage comme ça, en accompagnant avec des mots, des câlins, et puis. Et puis ce serait donc du coup à 3 ans et demi. Et là, ma petite puce qui va bientôt avoir 2 ans, bah, du coup, elle est toujours allaitée pour encore quelques temps, j'espère. Donc voilà, mes histoires de...
Chouette. Moi, c'est toujours chargé en émotions, quoi.
C'est clair, ouais. Des beaux moments.
Merci beaucoup d'avoir osé venir témoigner. Je sais que c'est pas si simple que ça, mine de rien, de livrer son histoire.
Oui, c'est ça. Ouais. Après, ça reste des beaux moments, des moments de vie qui sont vraiment très, très intenses, très forts et très chargés en émotions. Ouais. C'est beau.
Et puis, je suis convaincue que toutes nos histoires résonnent les unes avec les autres et que du coup, il y a toujours à apprendre. C'est toujours riche, quoi.
Ah oui, complètement. Ouais, complètement. Ouais. C'est vrai que pour me préparer à l'accouchement de ma deuxième, j'ai vraiment écouté beaucoup de personnes qui expliquaient des récits d'accouchement, et c'est vrai que ça permet de comprendre comment ça marche chez chaque femme et de se redonner confiance en soi. En fait, je pense que c'est vraiment ça qui nous manque aujourd'hui. Et puis, le domaine médical ne nous donne pas forcément confiance parfois, au contraire. Et en fait, moi, j'ai envie de dire aujourd'hui à toutes les femmes, mais tu es capable, en fait, on est toutes capables de le faire à partir du moment où on sait les choses, où on s'informe et en fait, on est toutes capables de le faire. Donc, on ne nous le dit pas assez, je trouve, dans notre parcours de grossesse.
Bon, bah, tu vois, je n'ai même pas besoin de te poser la question de la fin.
Ouais, c'est ça.
Tu as anticipé.
Vraiment.
Bon. Bah, écoute, je te remercie beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci. J'espère que vous avez passé un beau moment. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, mais également à partager sur les réseaux sociaux et à en parler autour de vous. Je fais le choix de ne pas proposer de publicité. Libre à vous de participer et de contribuer. Vous avez la possibilité de le faire via le compte Tipeee Enfanter et Devenir. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.